Bonjour, dimanche, les électeurs et les électrices auront à choisir les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale entre les deux candidates et candidats qualifiés au premier tour des législatives. Pour rappel, les députés ont un rôle très important dans le fonctionnement démocratique de la France. Ce sont les députés qui votent les lois qui régissent le quotidien des Françaises et des Français. Ce sont eux qui votent le budget de l'État. Ce sont eux qui contrôlent l'action du gouvernement. Les députés peuvent déposer des amendements, des propositions de loi, des initiatives législatives qui peuvent devenir des lois si elles sont votées par les parlementaires, ce qui veut bien dire qu'un député travaille des dossiers. Les députés mènent aussi des actions au niveau local lors de leur permanence, en recevant notamment les habitants de leur circonscription. Dimanche dernier, trois semaines après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, le Rassemblement national a confirmé au premier tour des législatives sa victoire aux élections européennes. Et pour ce débat du second tour sur la deuxième circonscription de la Sarthe, comprenant les cantons Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Ville-Est, Le Mont Sud-Ouest, Le Mont Ville-Est et Bouloire et Montfort-le-Génois, nous recevons Marietta Caramonli, députée sortante du Parti Socialiste, investie par le nouveau Front Populaire, qui est arrivée en tête du premier tour en rassemblant 39,95% des suffrages exprimés, et François Fèvre, qui est le candidat républicain soutenu par le Rassemblement National, arrivé en deuxième position avec 35,29% des voix, devant Samuel Chevalier, candidat de l'UDI, qui a obtenu 23,09% des suffrages exprimés. Bonjour à vous deux et merci de vous être rendus disponibles pour cet échange. Au résultat de ce premier tour des législatives sur votre deuxième circonscription, il y a 2418 voix de différence en faveur de Marietta Caramonli. Quels enseignements tirez-vous de ce premier tour des élections législatives? Et le tirage au sort a désigné pour commencer ce débat François Fèvre, qui est le candidat Les Républicains soutenu par le Rassemblement National.
Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. La droite a fait un score historique. On a fait plus au premier tour que ce qu'on avait fait au second tour. Déjà, le RN avait eu le report des voix LR et Reconquête. Donc c'est déjà quand même une réussite. On voit que la vague continue à avancer parce qu'il y a un vrai ras-le-bol de la part des Français, en fait des politiques actuelles, et on voit un changement. Aujourd'hui, on est derrière, du coup, Madame Caramonli, qui est une députée qui est là depuis très longtemps et qui est sur le terrain.
Depuis 17 ans, précisément.
Exactement, depuis 17 ans. Ce que je vois, c'est que ce qui va se jouer, ça va être avec les électeurs de Monsieur Chevalier, donc les centristes, qui ont pu être séduits par un profil sérieux, on va dire, de Monsieur Chevalier. Et je pense qu'aujourd'hui, notre programme est le programme le plus sérieux par rapport à celui du nouveau Front Populaire, notamment d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue sécuritaire, qui sont les deux enjeux majoritaires pour moi, enfin prioritaires plutôt, pour les Français et la France.
Marietta Caramonli, vous êtes la députée sortante du Parti Socialiste investie par le nouveau Front Populaire. Quels enseignements vous tirez de votre expérience, puisque ça fait 17 ans que vous êtes élue députée de cette circonscription, de ce premier tour 2024?
Alors, ce que je retiens un petit peu de ce premier tour, plusieurs éléments. D'abord, saluer l'engagement, je dirais, des citoyens de se déplacer, de venir nombreux à voter. Ils étaient très nombreux à ce premier tour. Il reste encore des hommes et des femmes, des électeurs et électrices à convaincre de faire le déplacement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je voulais aussi garder, c'est qu'ils m'ont fait, je dirais, confiance une nouvelle fois en me plaçant en tête dans cette circonscription et dans le département plus généralement. Et puis, le troisième enseignement que je retiens, c'est qu'effectivement, il reste encore à mobiliser et à les convaincre de l'intérêt de me soutenir dans ce combat, et étant moi-même plutôt une femme de raison, une femme, je dirais, de travail sur le terrain, d'écoute et de proposition dans le respect des uns et des autres. Et aussi, je veux le dire quand même un petit peu, avec un esprit un peu indépendant, parce que c'est les priorités de mes concitoyens qui me guident.
Comment réagit cette semaine les habitantes et les habitants de votre circonscription au regard du résultat de ce premier tour, et notamment la montée du représentant LR soutenue par le Rassemblement national.
Alors, je veux être franche, je veux dire ce que j'ai entendu. Hein. Donc, en fait, à la fois du soulagement d'être là, présente et ancrée un petit peu sur le terrain, et à la fois aussi une peur face à la montée du Rassemblement national dans le pays, et qui n'arrivent pas à comprendre, et parce qu'il y a des fractures qui se créent et des rejets qui se mettent en place et que les Français ne veulent pas de ces rejets. Donc voilà, c'est les premières réactions que j'ai pu avoir directement sur le terrain, en leur disant qu'il reste un dimanche encore, qu'il faut continuer et que rien n'est joué, et définitivement, qu'il faut vraiment poursuivre l'engagement.
François Fèvre, que vous ont dit les personnes que vous avez rencontrées cette semaine par rapport aux résultats du premier tour ?
Mais je vois un vrai espoir chez ceux qui veulent du changement, qui espèrent que les bons scores de l'Union de la droite se arrivent au second tour et qu'ils puissent avoir une vraie majorité. Voilà, ils espèrent vraiment une majorité pour pouvoir faire des choses, arrêter cet immobilisme. Il y a une peur aussi du nouveau Front populaire, parce que voilà, aujourd'hui, je comprends l'indépendance de Mme Caramoli, mais cette alliance est quand même assez dangereuse. On voit, toujours pareil, le candidat triple fichesse dans le Vaucluse. On a le NPA, qui est quand même un parti qui est accusé d'apologie au terrorisme.
Quelques candidats, il faut le préciser. Même titre qu'il y a aussi des candidats qui on reproche des choses au niveau du Rassemblement national.
Oui, c'est moins, parce que c'est ce que j'essaie de dire aux Français, c'est que l'histoire un peu qu'on raconte sur un fascisme présumé du RN n'existe plus, c'est du passé. Le RN a changé par rapport au Front National. En plus, j'incarne entre guillemets avec nos amis d'Éric Ciotti une ouverture de ce parti. On espère que ce parti soit de plus en plus un parti de gouvernement et avec un on l'a vu sur notre programme, un programme sérieux et qui soit à la fois un programme sérieux mais qui soit une vraie alternative. Ce que je veux aussi casser, c'est ce demi de croire que les centristes sont les modérés et des bons électionnaires. On l'a vu avec Macron, c'est faux. Le centrisme est aussi une idéologie, avec eux aussi leurs extrémistes. En fait, il y en a partout des extrémistes. Voilà. Donc, un point, on est d'accord avec, c'est qu'il faut recréer une cohésion nationale, arrêter de s'envoyer des anathèmes et recommencer à parler entre nous. Et moi, je pense qu'on est ceux qui sont plus proches des idées des problèmes des Français.
François Fèvre, quand vous dites, vous reprochez à Marita Caramoli, j'ai bien compris. C'était pas une bonne idée de faire alliance avec la France Insoumise, parce que c'est d'eux dont vous parlez. C'était mieux de faire alliance avec le Rassemblement National quand on fait partie du Parti des Républicains.
Moi, je vois quand j'étais en école, par exemple, moi, j'ai vu des jeunes d'extrême gauche tabasser des étudiants français. J'en ai vu.
Au même titre qu'il y a des jeunes d'extrême droite qui font la même chose.
Nettement moins. Ça, je peux vous. Parlez-en à ceux de l'Uni ou de la cocarde d'étudiants qui sont fait tabasser.
L'Uni, en même temps, c'est le syndicat des étudiants qui sont plutôt extrême droite.
De la droite. Enfin, voilà. Mais non, je vous dis ce que j'ai vu et voilà. Et je
vous. C'est pour ça que je vous dis aussi ce que je vois.
Ceux qui empêchent les conférences dans les facs. C'est souvent l'extrême gauche. Ceux qui veulent censurer CNews ou Europe 1, c'est de nouveau la gauche. Et donc le côté en fait totalitaire, aujourd'hui ça a changé. Aujourd'hui il est plus à gauche qu'il est plus vers. Bon, je parle pas de Mme Caramoli, je parle de ses alliés. Il est plus là-bas. Et le RN au contraire fait un travail de s'être assagi et on voit ses alliés qui sont des gens sérieux et compétents.
Samuel Chevalier, le candidat du DI qui aurait pu se maintenir, il faut le dire, au deuxième tour a retiré sa candidature. Il a fait le choix de favoriser la candidature de la députée sortante pour éviter que le Rassemblement National ne s'empare de la deuxième circonscription. C'est ce qu'on appelle le Front Républicain. Il demande à ses électrices et à ses électeurs de se positionner utilement lors de leur vote. Comment justement vous envisagez de convaincre les électeurs de Samuel Chevalier de voter pour vous dimanche, Marita Caramoli?
Alors, tout d'abord, moi, je salue finalement la sagesse de tous ceux qui se sont retirés pour le deuxième tour et donner un message clair. La clarté, c'est aussi dans le propos, et je pense que parfois, se taire ou parler, c'est aussi prendre position. Donc, je salue ceux qui ont parlé et qui ont parlé clairement. Et pourquoi ? Parce que aussi par ailleurs, au-delà de cette élection nationale, c'est aussi une élection, je dirais, sur le terrain. Une élection législative, ça se joue aussi sur chaque circonscription. Et chaque député a la même part de pouvoir que les 576 autres députés. Donc ça, c'est important. Et je crois que dans cet ancrage que j'ai aujourd'hui sous la cette circonscription, et la confiance que je n'ai jamais défailli, en tout cas, donc vis-à-vis de la population, le candidat de la majorité présidentielle, il a salué aussi ce travail de terrain, la capacité d'écoute et la capacité aussi de proposer et d'agir à partir de ce qui vient, des solutions concrètes qui viennent du terrain. Et c'est un combat aussi de faire en sorte que les décideurs au niveau national, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a que le Parlement qui décide, j'aurais bien aimé être dans une république parlementaire et pas dans une république présidentielle. Et aujourd'hui, le rôle du président, et c'est lui qu'on connaît, de défaire et de faire, souvent de défaire parfois, et là on est dans le cas,
oui,
et je pense qu'effectivement on aura besoin d'hommes et de femmes qui soient aussi dans cette construction sans haine, sans division, mais aussi dans la construction pour apaiser ce débat nécessaire sur des idées et sur des propositions. On a besoin d'apaisement et on n'a pas besoin finalement d'excitation dans tous les sens. Moi je l'ai vécu de l'intérieur et j'ai vu comment les uns et les autres se sont positionnés, et j'ai toujours été de celles et de ceux qui sont dans le débat, dans la construction, et pas forcément dans la haine.
Fabien, François Fèvre, excusez-moi, comment vous envisagez de convaincre les électeurs qui ont voté dimanche, donc pour Samuel Chevalier ?
Mais d'abord, je voudrais remercier aussi Patrick de Mazière, son suppléant, qui n'a pas appelé à voter comme M. Chevalier, et je veux les convaincre, parce que, de nouveau, ce que je disais, c'est que ce qu'ils ont apprécié chez M. Chevalier, c'est ce côté sérieux, notamment, et cette peur aussi du programme économique de l'extrême gauche. Et je voudrais leur montrer qu'en fait, notre programme est plus rassurant pour eux, et notamment plus sérieux, avec sur ce côté de nouveau économique sécuritaire, notamment sur le point de vue économique, où on est le seul parti qui explique où il y aura des coupes budgétaires pour en fait repenser le service public. Il faut vraiment le remettre dans les vrais besoins premiers des Français. On parle de l'éducation, le régalien, la santé, et casser un peu parfois le trop plein administratif. Je tiens quand même à saluer le travail qui est souvent très bon de nos fonctionnaires. Moi, j'ai travaillé un peu en mairie et j'ai pu voir à quel point c'était un travail de très grande qualité. Mais au moins faire un peu le ménage, notamment dans les hauts fonctionnaires qui parfois sont dans les postes fictifs.
Voilà, je voudrais vous rappeler, François Fèvre, que vous parlez de l'extrême gauche en parlant notamment du nouveau Front populaire. Je rappelle que le Conseil d'État a tranché. Hein, il n'a pas validé le fait que ce soit interprété comme l'extrême gauche.
Ouais, bon,
la loi est la loi. C'est bien de se conformer, si vous voulez bien, à la loi. On a toutes.
Ouais, nous appelons l'extrême droite, c'est quand même aussi. On pourrait débattre.
Mais là, le Conseil d'État...
Mais justement, c'est ça que c'est très politique. C'est très politique.
Je ne sais pas si on peut accuser le Conseil d'État d'être politique. C'est peut-être faire injure à ceux qui siègent au Conseil d'État. On a toute la semaine dernière évoqué le programme des candidates et des candidats concernant les préoccupations majeures des Françaises et des Français. Ils attendent que les députés améliorent leur pouvoir d'achat, leur besoin de se sentir en sécurité ou encore des mesures en faveur du climat et de la protection de l'environnement. Les électrices et les électeurs peuvent prendre connaissance de vos propositions, en lisant tout simplement votre programme qu'ils recevront dans leur boîte aux lettres. Et on les invite vraiment à lire votre programme, parce que quelquefois ces programmes restent dans l'enveloppe et c'est un peu dommage. Cette semaine, je vous propose donc de rester au plus près des attentes de votre circonscription, puisque vous êtes allé à la rencontre des habitantes et des habitants. Quelles sont donc les attentes concrètes, je dis bien concrètes, dont vous ont parlé des habitants et des habitantes de votre circonscription pour améliorer tout simplement leur vie quotidienne, et qu'est-ce que vous leur proposez concrètement pour y répondre? Et le tirage au sort a désigné pour commencer Marietta Carmoly, députée sortante socialiste, investie par le nouveau Front populaire.
Alors, parmi les propositions, enfin les besoins vraiment, les priorités de nos concitoyens, c'est d'abord la question du pouvoir d'achat. Et face à ce pouvoir, la question du pouvoir d'achat, c'est faire en sorte qu'on trouve des réponses pour pouvoir l'améliorer. Comment ? D'abord, ça passe par la baisse des taxes sur l'énergie. Nous avons fait des propositions à l'Assemblée nationale qui ont été malheureusement pas soutenues par le Rassemblement national. Donc, c'est des textes, une proposition de loi qui a été faite dans ce sens-là. C'est aussi la question d'augmentation des bas salaires, c'est-à-dire du SMIC. Aujourd'hui, un couple avec un SMIC ou deux SMIC n'arrive pas à boucler leur fin de mois. Enfin, on est réaliste, là, je n'invente rien.
C'est ce que tout le monde dit. Hein.
Et quand on a proposé une proposition là, d'augmentation du SMIC à 1600 euros, franchement, là, il n'y avait pas une grande révolution, mais c'était quand même un pas en avant. Ben, ça a été aussi refusé par le Rassemblement national. Mais c'est aussi la question des retraites. Nous avons rencontré beaucoup de retraités qui n'ont pas de retraite décente et que sans parler finalement le futur avec toute la réforme qui était passée sur les retraites, qui va morceler encore plus la situation des Françaises et des Français. Donc le pouvoir d'achat passe par trois mesures de justice fiscale.
François Fèvre ? Par rapport au quotidien des gens, qu'est-ce que vous leur proposez de régler concrètement par rapport à leur quotidien ? C'est tout simple, hein. Ça peut être le fait de ne pas avoir à disposition tel ou tel service, etc.
Mais je rejoins d'abord quand même Mme Carmel sur le fait que ce qui revient vraiment, la priorité, c'est vraiment le pouvoir d'achat. On parle d'essence, on parle de courses, de fin de mois difficile. Un point, on va se mettre d'accord, c'est bien, peut-être pour voter ensemble sur un point, c'est sur la baisse des produits énergétiques, notamment sur la TVA, parce que la TVA 5,5. Évidemment, je suis opposé à la montée du SMIC pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas oublier que le coût du SMIC, ce sont les PME et TPE qui le prennent en compte. Et en fait, j'aimerais bien monter les salaires comme ça, mais ça ne marche pas comme ça. En fait, ça risque de ruiner en fait, des TPE et des PME qui sont ceux qui créent de l'emploi.
Ça veut dire que finalement, le pouvoir d'achat ne peut pas, d'après vous, être augmenté par l'augmentation du salaire.
Oui. Bah, pas comme ça, en fait. Dans ce cas, c'est plutôt une diminution des charges patronales et sociales qui permettent, en fait, de...
Alors, comment vous financez la sécurité sociale et les retraites?
C'est là, du coup, où j'en parlais avant. C'est vrai que nous, contrairement à la gauche, on préconise de baisser les dépenses publiques. Parce que de nous, c'est pas magique, on ne crée pas de l'argent comme ça. Donc, on a une vraie politique de dire de baisser les normes et les dépenses publiques pour pouvoir financer la baisse des impôts. L'un va avec l'autre. On en a déjà parlé un petit peu de la fin des ARS qui sont très administratifs, voilà, des choses comme ça. Et l'autre point qui est très sartois, parce que c'est des points qui sont finalement très nationaux, tout le monde en parle en France.
Si on peut être au plus près de votre territoire.
Un point très sartois, mais qui est aussi, c'est le problème de désertification médicale. C'est ce qui est pratiqué en France, mais la Sarthe est le troisième département le moins dépourvu en termes de médecins, dentistes et compagnie. Et donc, on a deux points là-dessus. Le premier, c'est un point dans l'urgence, c'est de pouvoir faire revenir des médecins à la retraite grâce de nouveau à une baisse de la fiscalité et faciliter le cumul emploi-retraite. Et le deuxième point, c'est plus à l'avenir, c'est d'augmenter le nombre de places de médecins dans les écoles. Mais là, bon, il faut quand même 10 ans pour faire un médecin. Donc, c'est pas, voilà, mais c'est pour préparer l'avenir.
On a beaucoup parlé du Rassemblement National. Est-ce que vous pouvez nous préciser, François Fay, pourquoi vous êtes un candidat républicain et que vous avez tenu à être soutenu par le Rassemblement National ?
Parce que donc, je ne suis pas encarté au Rassemblement National, c'est moi ce qui me...
Vous êtes chez les Républicains ?
Alors je ne suis plus même plus, parce que, comme vous le savez, j'étais un ancien journaliste, je préférais ne pas mélanger les cartes et les médias, mais je suis un militant depuis très longtemps, notamment de M. Fillon, qui est très connu ici en Sarthe, et moi je milite de fait depuis très longtemps pour l'Union des droites. Je suis travaillé pour Robert Ménard à Béziers. À Béziers, il n'y a plus de droite, donc moi ça ne m'intéresse pas en fait, LRN, ce qui m'intéresse c'est la France et... Et les Français.
Marietta Carmoli sur le terrain par rapport aux...
Oui, je voulais juste rebondir un petit peu sur la question qui a été évoquée par le candidat du Rassemblement National sur la circonscription, sur la question de la désertification médicale, qui est effectivement, aux côtés du pouvoir d'achat, c'est aussi une problématique nationale, mais à la fois aussi très, très, très sartoise.
Oui,
moi, je fais des propositions très concrètes, qui étaient finalement, par exemple, de travailler sur les soins de proximité, y compris itinérants, pour pouvoir... irriguer le territoire, c'était aussi de réguler l'installation des médecins et augmenter aussi le nombre de formations pour les médecins et les infirmiers. Moi, je constate seulement concrètement lorsqu'il y a eu des propositions à l'Assemblée nationale sur cette thématique-là, c'est le vote contre. Il y a eu une abstention sur la régulation, par exemple. effectivement des médecins. Et ça, je peux vous donner même la date du vote, parce que j'ai regardé de plus près ce qui a été voté. Rétablir, c'était élargir l'assiette, bien sûr, des taxes, qui était bien sûr contre. C'était aussi rétablir l'impôt de la solidarité sur la fortune, c'était une abstention. Mais là, quand on parle de la santé, réguler l'installation des médecins dans les zones bien pourvues en soignant, ben ça a été contre, c'était le 14 juin 2023, et un an, voilà, il y a un an. Donc effectivement, il y a une incohérence. Je ne veux pas dire que les candidats ici en face partagent les votes du Rassemblement National, mais quand même, c'est là par la preuve. Et je dirais aujourd'hui, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a un double discours sur le terrain entre ce qui est proposé et dit par le Rassemblement National et ce qu'il fait quand il a la possibilité de faire autrement pour répondre aux besoins des concitoyens. C'est ça qui me dérange aussi, au-delà des autres ruptures que nous pouvons avoir en termes de tolérance et qu'on a évoqué tout à l'heure.
François Fèvre, par rapport à justement ce qui a été ou pas voté par les députés actuels du Rassemblement à l'Assemblée nationale, je suppose que vous êtes allé aussi, comme chaque candidate et candidat, vous renseigner un petit peu. C'est quoi votre position, parce que vous êtes à la fois LR et à la fois RN?
Mais c'est là où je crois vraiment à ce que va pouvoir apporter en fait les candidats d'Éric Ciotti. En fait, cet élargissement de l'alliance, pour moi, ça va apporter des députés supplémentaires qui vont pouvoir travailler là-dessus. Et en fait, j'ai pas le détail de
seulement pour que les électrices et les électeurs, excusez-moi, puissent bien comprendre. Voilà, on l'entend tant à la télévision que dans les débats sur Radio Alpa, entre effectivement ce que proposent les candidats. Alors on va parler du Rassemblement National, mais vous êtes affilié au Rassemblement National pour votre candidature, et la réalité de leur vote, eh ben, on constate, parce qu'il suffit d'aller vérifier, hein, c'est pas tout à fait la même chose.
Majoritairement aussi, ils ont quand même voté ce qu'ils avaient proposé. On parle parfois du côté changeant en fait du Rassemblement National. On est aujourd'hui dans une recomposition politique où la droite aujourd'hui se reconstruit, et pour moi, c'est normal qu'il y ait comme il y a eu au Nouveau Front Populaire, qui ont quand même aussi des changé très fortement leur programme entre le PS, les Verts ou les LFI. Aujourd'hui, il y a les LR qui s'allient avec le RN enfin pour pouvoir refaire un programme commun, comme il y a eu le programme commun sous François Mitterrand avec les communistes et les socialistes. Aujourd'hui, c'est ce que, pour moi, je pense que la droite doit se rassembler. On doit justement pouvoir ouvrir le plus possible ce débat et proposer du coup cette vraie alternative à la France, et j'ai plutôt de bon espoir pour la suite.
Marietta Carmonly, vous avez l'avantage effectivement d'être très connue hein, dans la circonscription, ça fait 17 ans que vous êtes la députée, et voilà, vous êtes sur le terrain, on reçoit à la rédaction un certain nombre de vos actions, de vos interpellations auprès des ministres. Qu'est-ce que là, ces dernières années, vous avez pu, en raison de ce qu'attendent les électrices et les électeurs du rôle du député, réussir à obtenir?
Alors, plusieurs choses, parce qu'en fait, c'est bien sûr proposer, s'inspirer, travailler sur le terrain et proposer finalement des solutions concrètes. Mais quand il s'agit par exemple la gendarmerie de Conneret, j'ai pu obtenir cette reconstruction de la gendarmerie avec des fonds de l'État, qui était la dernière gendarmerie qui a été financée sur les fonds de l'État. Les changeurs avec les collectivités, et la question, le bureau de police, quand il était question de fermer le bureau de police au Sablon, finalement je me suis battue, je suis allée trouver même des locaux, voilà, pour pouvoir dire que c'était possible de le faire là, etc. Bien sûr, je ne suis pas toute seule, mais je suis là pour proposer également et inciter aussi les collectivités et les services de l'État d'aller dans ce sens-là. Je crois que c'est ensemble, avec d'autres institutions, mais aussi avec d'autres forces, je dirais, politiques, qu'on peut finalement répondre concrètement au territoire. Mais c'était aussi les France Services. France Services, dans les quartiers sud, c'est le seul qui existe au Mans. Je plaide pour que ça puisse être développé. On l'a mis en place, ça fonctionne. Il est même victime de son succès, malheureusement. Et il faut aussi le développer. Parce que les services publics, c'est ça qui manque un petit peu aussi, y compris en campagne. J'étais tout à l'heure à Conneret. Effectivement, les gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Où sont passés les services publics? C'est ça. Donc, c'est le sentiment d'abandon que oui. parfois les gens peuvent avoir. Et ce n'est pas l'ORN qui va les apporter parce qu'ils ne proposent pas ces questions-là.
Voilà.
Et
ces solutions. Il se trouve que j'ai vu hier soir le film Monsieur le maire, qui aborde exactement comment un maire d'une toute petite commune rurale doit faire pour pas que son école ferme. Mmh. Et voilà, il y a des questions d'effectifs. Et il se trouve qu'il y a des maires isolés avec des enfants qui n'arrivent pas à trouver de logement. Et qui demande donc à monsieur le maire de l'aide. On est vraiment dans une réalité hein, dans ce film. Est-ce que finalement il faut à la fois composer pour restructurer, je dirais, les services publics dans les zones rurales avec ceux qui sont en recherche de logement, par exemple ?
La question du logement, pareil, c'est revenu beaucoup sur les marchés, sur les contacts qu'on a. En fait, aujourd'hui, au Mans, si je prends l'exemple, il y a 12 000 logements qui manquent. Il y a 12 000 demandes voilà, qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui. Donc ça veut dire effectivement, les gens parfois ils peuvent croire que moi je n'ai pas une réponse, donc c'est à cause des autres finalement. Non, ce n'est pas à cause des autres qui ont pu obtenir à un moment donné un logement ou qu'ils ont changé de famille, etc. C'est surtout ce qui manque, le financement de construction de nouveaux logements en France et donc sur nos territoires pour pouvoir proposer à toutes les familles un accès à un logement digne de ce nom.
Sur le logement peut-être les attentes aux zones rurales.
Oui, alors un petit point justement là-dessus sur les services publics, c'est sûr que c'est le sentiment d'abandon. Là aussi, ça rejoint le livre de Christophe.
Et c'est flagrant, hein, c'est flagrant.
Ah, c'est flagrant, ça revient tout le temps, ça, là-dessus, c'est clair. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur le fait, finalement, de voir de la France comme une chance de pouvoir repenser le service public, en fait, de se redire quelle est la vraie priorité du service public. Et donc, pour moi, c'est sûr que les écoles, les transports, là aussi, on parle de transports plus écologiques et compagnie, ça permet d'avoir ces services publics qui doivent revenir en fait à la campagne, et la campagne ils ont, moi j'y habite et j'ai beaucoup d'amis là-bas, on voit très bien que on est les oubliés du système, voilà. Donc ça c'est ce que je porterai aussi à l'Assemblée nationale bien sûr, par rapport au logement. Je vais parler d'une marotte qu'on n'a pas beaucoup parlé qui est l'immigration. De nouveau, je répète qu'on ne sommes pas contre l'immigration, nous sommes contre l'immigration massive, et moi j'ai travaillé en Afrique et au Liban en tant qu'humanitaire pour justement aider des enfants défavorisés. Et je voudrais qu'on arrête les mensonges sur l'immigration, d'arrêter de dire à la classe moyenne africaine de venir en France pour être dans un bon endroit. Non, aujourd'hui, on peut pas loger tout le monde, et c'est pas décent en fait de les loger dans la rue.
Voilà, la semaine dernière, j'ai beaucoup insisté sur la sémantique du mot immigration pour peut-être clarifier hein, la situation, parce qu'il va y avoir les problèmes avec le climat, etc. Il va y avoir certainement des gens qui vont fuir leur pays pour venir tout simplement vivre dans un autre pays où c'est possible. Est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer le terme immigration par migration, Marita Karamanli ?
Il y a des migrations. De tout temps, d'ailleurs.
Parce que partout. Ça, c'est la réalité,
l'exil et la migration. Et la question de migration, aujourd'hui, liée aussi au climat hein, finalement, et au changement du climat, qui est refusé aujourd'hui par le RN. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, selon RN, il faut arrêter toute politique qui pourrait finalement faire en sorte qu'on change nos comportements pour éviter une montée des eaux finalement, un changement climatique qui est déjà là. Donc ça veut dire que déjà il y aura des migrations dans l'avenir qui ne pourront pas être contenues comme on le dit sur le papier ou comme on le dit même à la radio, parce que finalement il faut mener des politiques aussi parallèlement sur la question économique, sur la question environnementale et aussi sur la question finalement de l'organisation, de l'immigration aussi régulière.
Très rapidement, François Fay, pour répondre sur cette question-là.
C'est très important, c'est vrai que on parle souvent des migrants, ce qui ne va peut-être pas dire grand-chose. On a des réfugiés qui fuient parce qu'ils sont en danger de mort dans leur pays, qu'il faut évidemment accueillir. Ça enlève quand même 90% de l'immigration. On a ensuite des clandestins. Et là je suis désolé, on a aussi un devoir pour la France d'avoir une gestion saine de l'immigration. On ne peut pas accueillir tout le monde. Ce n'est ni possible, ni bon pour eux, ni bon pour nous. On a en plus une culture française qui est superbe et qu'il faut réussir à faire perdurer. Et sur l'écologie, si nous avons un vrai programme écologique dont on a parlé la semaine dernière, donc j'invite tout le monde à aller voir les podcasts de Radio Alpa.
Merci, on arrive au terme de ce débat. En guise de conclusion, en 30 secondes, Quel message avez-vous à adresser à vos électrices et à vos électeurs de votre circonscription dimanche pour qu'ils puissent voter pour vous et que vous puissiez devenir leur député? Et le tirage au sort a désigné pour commencer Marietta Carmonnier, qui est députée sortante du Parti Socialiste, investie par le nouveau Front Populaire. 30 secondes, s'il vous plaît.
Alors, je m'adresse à vous, électrices et électeurs de la deuxième circonscription, pour voter, à voter finalement pour le progrès, à voter pour la démocratie, à voter aussi pour une députée qui est sur le terrain, qui continuera à l'être demain et qui finalement porte vos priorités.
François Fay, vous êtes le candidat soutenu par le Rassemblement National. En 30 secondes.
Alors, je veux dire que le changement est possible demain, aujourd'hui en France. Il faut aller voter massivement dimanche, donc déjà pour la démocratie, mais aussi parce qu'on a enfin un espoir de pouvoir être majoritaire à l'Assemblée pour une vraie tendance de droite qui va porter, pour le coup, vraiment les priorités, le pouvoir d'achat, l'insécurité et l'immigration.
Merci pour ce débat qui concernait la deuxième circonscription. Bonne fin de campagne à vous deux. Ce débat sera rediffusé ce soir à 19h et demain à 9h. Vous pourrez aussi le retrouver en podcast téléchargeable sur radioalpa.com et sur les plateformes numériques. Merci à Romain Linan pour sa réalisation technique. On rappelle aux électrices et aux électeurs que dimanche, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Demain, nous recevrons les candidates qualifiées pour le second tour sur la quatrième circonscription de la Sarthe. Nous recevrons Marie-Caroline Le Pen et Élise Leboucher. Pour que vive la démocratie, dimanche, votez pour élire votre député.